Bonjour, merci d'être présent pour cette conférence. Donc l'objectif va être de vous proposer en fait plutôt des outils et une méthodologie pour s'approprier les bonnes pratiques d'hygiène en microbrasserie. Donc juste rapidement pour vous présenter les activités de l'ENIL de Poligny. Donc c'est un établissement qui fait partie du ministère de l'Agriculture avec trois activités qui sont principalement l'industrie alimentaire et une autre activité qui peut vous intéresser, la brasserie et tout ce qui va être aussi gestion et maîtrise de l'eau avec la gestion des effluents par exemple en microbrasserie. Donc on fabrique notre propre bière sur le site de l'ENIL Bio. L'objectif, c'est de former des jeunes et des moins jeunes aux techniques brassicoles. Donc, on est équipé d'une plateforme de microbrasserie de 5 hectolitres. Et du coup, on fabrique la polinoise en isobarométrique. Vous pouvez retrouver aussi des guides qui peuvent vous aider pour maîtriser le risque microbiologique en brasserie ou aussi pour maîtriser l'eau et les effluents en microbrasserie. Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, là, c'est pour parler plutôt de la mise en place d'un système qualité. Alors pourquoi en fait on va parler de mettre en place ce système qualité? Il faut savoir que l'entreprise brassicole fait partie de l'entreprise agroalimentaire, du secteur agroalimentaire. Et donc il y a un dispositif réglementaire qui est européen, qui s'appelle le paquet hygiène, qui va permettre en fait d'assurer la protection de la santé du consommateur à travers ce système qualité. Ça va garantir la sécurité sanitaire des aliments. Alors on peut se dire que nous, avec notre bière, peut-être qu'il n'y a pas de risque pour le consommateur, mais l'objectif n'est pas juste que de protéger la santé du consommateur, c'est aussi de tenir compte de la qualité quand même du produit, d'assurer une qualité de bière suffisante. Si du coup la qualité de notre bière est satisfaisante pour le consommateur qui du coup va s'intéresser à pouvoir revenir plusieurs fois chez le brasseur pour acheter des bières. Donc ça va permettre aussi d'assurer la libre circulation des produits sur le sol européen. Et du coup, comment ça fonctionne, ce système qualité? Ça fonctionne sous forme d'une pyramide. Donc cette pyramide, le socle, c'est les bonnes pratiques d'hygiène. Les bonnes pratiques d'hygiène, c'est plutôt du bon sens, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de respecter au maximum le produit à travers du coup, les pratiques d'élaboration de la bière. Et au-dessus de ce socle, il y a deux autres étapes. Mettre en place un plan HACCP, donc c'est souvent à ce niveau-là que ça coince, on va dire, au niveau des brasseries. C'est-à-dire que les bonnes pratiques d'hygiène, on le fait, on va dire, à peu près facilement, c'est à peu près naturel. Mais aller un petit peu plus loin, ça devient, on va dire, plus potentiellement technique. D'où l'idée, en fait, que je vous parle un petit peu de cette partie d'HACCP. Et puis le troisième point de ce plan de maîtrise sanitaire, donc c'est la traçabilité. Donc le plan de maîtrise sanitaire, c'est lui qui définit en fait du coup la sécurité du produit pour le consommateur. Alors il va y avoir quelques petites définitions pour que les termes soient clairs entre ce que je vais vous dire et ce que vous allez pouvoir en retirer. C'est que du coup dans ce plan de maîtrise sanitaire, l'objectif va être de définir les dangers qui peuvent intervenir sur le produit, dans un aliment, et voir si ces dangers engendrent un risque. Donc c'est souvent la confusion entre danger et risque, c'est-à-dire que on mélange un petit peu les deux définitions. Donc pour resituer les choses, un danger, c'est un agent, alors qu'il soit biologique, microbiologique, on va parler de contamination microbio par exemple, qu'il soit chimique à travers les produits de nettoyage, à travers on va dire des mycotoxines par exemple, ou qu'il soit physique, un corps étranger, une bouteille qui casse et il peut y avoir des débris dans une autre bouteille à côté. Et donc ces agents biologiques qui sont dans un aliment, ils peuvent conduire à un effet néfaste sur la santé du consommateur, mais s'il est présent à un niveau qui va être inacceptable. Donc les trois types de dangers, je vous les ai resitués. Donc le danger physique, corps étranger, qui peuvent être transparents ou non transparents. Le danger chimique, donc principalement, on va dire, alors tout ce qui va être mycotoxines, pesticides, j'ai envie de vous dire, vous allez faire confiance à votre fournisseur, d'accord? Alors il peut toujours y avoir quelques soucis, mais généralement, il y a quand même une bonne qualité des matières premières. Mais par contre, là où vous allez être davantage acteur, ça va être sur les procédures de nettoyage et de désinfection. C'est-à-dire que s'il reste des produits de nettoyage dans votre, sur vos, votre cuverie, le risque, c'est que ça se retrouve dans le produit fini, dans la bière, et donc du coup, qu'il y a un risque, pour un danger pour le consommateur. Et puis au niveau microbiologique, donc là, bah, c'est plutôt les flores d'altération. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la bière, c'est pas un produit à risque. C'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver d'agents pathogènes, comme on pourrait entendre des fois, on va dire, aux infos. Il n'y aura pas de salmonella, d'escherichia coli dans la bière. Mais par contre, vous aurez des micro-organismes d'altération qui vont, eux, bah, du coup, dégrader la qualité de votre produit sans pour autant, on va dire, aller jusqu'à... tuer le consommateur. Donc tous ces dangers qui sont présents peuvent, si ils sont présents à un niveau inacceptable, engendrer un risque. Et donc ce risque, c'est la probabilité qu'un effet néfaste puisse arriver. Et donc c'est ce qu'on va évaluer à travers l'HACCP pour voir si il y a des étapes qui sont plus critiques que d'autres. Une petite mention sur quand même certains résidus chimiques qui peuvent du coup être un danger pour le consommateur, c'est tout ce qui est allergène. Donc c'est vrai que je vous ai parlé dans les risques chimiques des produits de nettoyage, de désinfection, des mycotoxines, mais il y a aussi tout ce qui est allergène, avec du coup une déclaration obligatoire sur l'étiquetage. Alors c'est vrai que nous, on est souvent amenés à parler du gluten, hein, puisqu'on utilise des céréales qui contiennent du gluten. Donc ça, ça va être sur l'étiquette de votre bière un élément qu'il faudra inscrire. Mais vous voyez qu'il y a quand même 14 familles, 14 allergènes différents. Et bah, potentiellement, je ne sais pas, si vous vous intéressez à faire une sweet stout où il y aurait du lactose, ça, ça doit aussi être mentionné sur l'étiquetage. Alors après, je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées de faire des, voilà, des bières à autre chose, mais il y aura des choses qui seront forcément interdites pour avoir la réglementation, l'appellation bière. Mais il faudra bien faire attention à préciser ces allergènes dans l'étiquetage. Au niveau microbiologique, donc les risques d'infection en brasserie, ils sont principalement de trois types. Alors moi, je vais vous parler plutôt, on va dire, de ce qui est en bleu ici et en vert. Donc, qui sont les lactobacilles et les pédiocoques. Donc, ces lactobacilles et ces pédiocoques, c'est ce qu'on retrouve en fait dans les bactéries lactiques. Ce sont deux familles de bactéries lactiques. Et si on regarde là, bah, 64 plus 12, on a plus de trois quarts des contaminations qui sont liées à la présence de bactéries lactiques dans le produit. Quelles vont être les conséquences de ces bactéries lactiques ? Principalement, les bactéries lactiques vont dégrader les mêmes sucres que vos levures pendant la fermentation, sauf qu'au lieu de produire de l'alcool et du CO2, elles vont produire de l'acide lactique. Cet acide lactique va avoir pour conséquence de diminuer le pH du produit et donc de descendre, on va dire, à des valeurs beaucoup plus faibles. Alors là, je parle, on va dire, des micro-organismes en tant que contaminants. C'est-à-dire que si vous décidez de faire une sour, c'est sûr que là, vous aurez volontairement ajouté des bactéries lactiques pour volontairement diminuer le pH de la bière et aller sur un style bien précis. Ces bactéries lactiques, elles auront aussi plusieurs autres fonctions. Elles vont produire du CO2, ce qui peut du coup entraîner des problèmes de carbonatation et du coup des taux de CO2 différents par rapport à ce qui avait été imaginé dans la bière au départ. Et puis elles vont produire ce qu'on appelle des exopolysaccharides. Alors, exopolysaccharides, ce sont des sucres en fait qui sont produits à l'extérieur des cellules bactériennes et qui vont créer une certaine viscosité. Et cette viscosité va se matérialiser par des problèmes de gushing. Donc, ces problèmes de gushing qui, du coup, bah, vont faire que la bouteille va exploser à l'ouverture et puis que le consommateur peut se retrouver avec une bouteille à moitié pleine, on va dire, sur sa table. Des altérations de goût. Donc, altération de goût de plusieurs types, mais notamment un marqueur qui est relativement rencontré par une infection aux bactéries lactiques, c'est le diacétyl. Donc, c'est une molécule aromatique qui a des notes de beurre rance, de pop-corn, qui va être intéressant, par exemple, dans un produit tel le yaourt, mais qu'on ne va pas rechercher dans la bière. Et donc, ça va nous indiquer, en fait, ces différents éléments peuvent nous indiquer qu'il y a un problème sur les bactéries lactiques. Et puis la deuxième famille de micro-organismes qui va du coup être contaminante en brasserie, c'est les levures autres que les levures Saccharomyces cerevisiae ou Saccharomyces uvarum. Ça va être les levures du type Brettanomyces ou Saccharomyces diastaticus. Pareil, je parle dans une bière où vous ne cherchez pas des caractéristiques particulières. Donc, je ne parle pas d'une bière où vous, volontairement, vous allez faire un élevage en barrique ou ensemencer des levures Saccharomyces diastaticus. Ces deux types de levures, en fait, ont pour particularité de consommer les dextrines. Donc, les dextrines qui sont, au départ, dans la bière, les sucres non fermentescibles. Donc, forcément, la conséquence, c'est que l'équilibre sucre-alcool va être complètement modifié. Vous aurez une bière beaucoup plus sèche et beaucoup moins ronde. Et puis, en modifiant ces sucres, en consommant ces sucres, bah forcément, vous aurez une carbonatation plus poussée et avec des phénomènes de gushing. Il y aura aussi une altération du goût, mais cette altération du goût est un peu différente de celle qu'on trouvait pour les bactéries lactiques. On va retrouver de l'acidité, plutôt sur l'acide acétique, donc qui est la note de vinaigre. Et puis, on va retrouver des notes de phénol, par exemple. Donc, phénol, ça se rapproche de clou de girofle. Donc, ça, c'est plutôt sympa au début. Mais on va aller aussi sur des notes de dentiste, de pharmacie, ce qui, on va dire, pour une bière où vous n'avez pas décidé d'ensemencer avec ces caractéristiques-là, va être un défaut. Alors, à partir du moment où, à travers ces marqueurs, vous imaginez ou vous avez l'impression d'avoir du coup une infection en brasserie, il n'est pas forcément nécessaire, on va dire, d'identifier la contamination. L'objectif derrière, c'est de mettre en place la bonne procédure de nettoyage et de désinfection. Il faut aussi savoir que tous ces micro-organismes, ils ont la capacité de former ce qu'on appelle des biofilms. Donc les biofilms, en fait, c'est un écosystème microbien qui va se développer à la surface d'un matériau, un matériel. Donc ça peut être la surface de vos cuves, ça peut être à travers, à l'intérieur d'un échangeur à plaques. Et donc du coup, ces micro-organismes sont transportés par votre produit qui est contaminé. Ils vont être capables, ces micro-organismes, d'adhérer à la surface. Et puis, une fois qu'ils auront adhéré, de se multiplier pour coloniser l'ensemble de la surface. Le biofilm, c'est vraiment quelque chose, on va dire, qui est difficile de se débarrasser, dans le sens où vous avez des micro-organismes qui sont un petit peu empilés les uns sur les autres, chacun avec leur fonctionnalité bien particulière. Donc, ceux qui seront plus en contact avec la surface, bah, c'est ceux qui sont capables d'adhérer au maximum. Et puis, entre ces micro-organismes qui se seront, on va dire, enchevêtrés les uns sur les autres, vous allez avoir des canaux dans lesquels vont circuler les nutriments provenant potentiellement de votre future bière que vous allez produire, mais aussi l'oxygène. Et par exemple, l'oxygène sera plus important, on va dire, à la surface du biofilm qu'à la base du biofilm. Mais les micro-organismes qui sont empilés les uns sur les autres sont mis dans le sens où, justement, ceux qui auront besoin le moins d'oxygène seront à la base et ceux qui auront besoin le plus d'oxygène seront en surface. Donc, à ce moment-là, du coup, il va falloir aller sur des techniques de nettoyage et de désinfection plus drastiques. Et ces biofilms, donc en particulier sur le bloc froid, donc à partir de l'échangeur jusqu'aux cuves de fermentation, bah, vont dépendre de la nature des matériaux, de l'état d'usure, donc éviter plutôt, on va dire, les choses qui vont frotter et qui vont créer des rayures sur le matériel. Et puis, ça va dépendre aussi de la qualité de l'assemblage, de la qualité des soudures de votre fournisseur et de votre process de nettoyage et de désinfection. Est-ce qu'il reste ou pas des matières organiques ou minérales sur le support qui pourraient permettre à ces micro-organismes d'adhérer? Donc là, on a fait un petit peu le tour de tous les dangers. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter des outils et une méthodologie pour, mettre en place un système qualité. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que le socle, c'était les bonnes pratiques d'hygiène. Alors les bonnes pratiques d'hygiène, enfin, vous pourrez vous servir de ces documents parce que, je veux dire, j'ai pas inventé des trucs particuliers. Il y a rien, on va dire, de très sorcier. Et on retrouvera ça, on va dire, dans toute entreprise agroalimentaire dont fait partie l'industrie brassicole. Donc, l'idée, c'est de répertorier toutes ces bonnes pratiques d'hygiène à travers un graphique qui s'appelle le diagramme d'Ishikawa, avec comme objectif de maîtriser l'hygiène. Notre hygiène sera maîtrisée si on respecte différents points qu'on peut répertorier dans 5 encadrés, qui s'appellent les 5M. Pourquoi ? Parce que chaque terme va commencer par un M. Donc au niveau de la main d'œuvre, je ne dis pas que tout est utile, hein, mais le lavage et la désinfection des mains, surtout quand on va être sur la partie ensemencement et sur la partie fermentation, va être important. Tout ce qui sera tenu va être important aussi. Au niveau du milieu, bah ça c'est plutôt, on va dire, nous ce qui va nous intéresser en brasserie, c'est le nettoyage, l'air propre. Alors c'est souvent une problématique, surtout pour les microbrasseurs qui se retrouvent dans des environnements potentiellement assez agricoles, avec des exploitations agricoles qui sont, on va dire, juste à côté de la brasserie, et où on a tendance à ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, pour justement essayer de tempérer la température dans la pièce. Et donc à ce moment-là, bah, tout ce qui est à l'extérieur de la brasserie se retrouve à l'intérieur. Donc quand on le sait, bah, c'est déjà bien. Après, il faut travailler et fabriquer en connaissant ce qu'il peut y avoir comme pollution dans l'air, de façon à ce que cette pollution aérienne ne se retrouve pas, on va dire, dans les cuves, dans le produit. Tout ce qui va être matériel, donc là c'est plutôt, on va dire, le bon entretien des équipements, la conception au démarrage et puis le plan de nettoyage. Au niveau des matières premières, c'est plutôt, on va dire, s'assurer de la conformité des matières premières par rapport aux fournisseurs. Et au niveau de la méthode, c'est, on va dire, envisager, par exemple, de séparer certains secteurs, en particulier séparer la zone de concassage du reste de la brasserie, pour éviter, en fait, que les poussières ventilées par le concasseur se retrouvent, on va dire, dans la partie bloc chaud ou bloc froid de la brasserie. Dans la partie du coup qui concerne le nettoyage et la désinfection, donc on va parler de détergence, et cette détergence, ça implique des moyens et des méthodes pour appliquer l'hygiène. Je vous ai remis juste les définitions de nettoyage et de désinfection. Souvent, j'ai quelques retours de microbrasseurs où je désinfecte, mais quand je désinfecte, c'est comme si je nettoyais. Alors ça va pas du tout être la même chose, c'est-à-dire que le nettoyage, c'est comme quand on fait la vaisselle à la maison. On va éliminer les souillures, donc on va voir visuellement que notre matériel est propre, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de micro-organismes. Et ce qui est important dans la désinfection, c'est que cette désinfection est momentanée, donc il faut désinfecter juste avant utilisation. Ce n'est pas la peine de désinfecter la veille, ce n'est pas la peine de désinfecter 2 heures avant, puisque du coup, l'action est momentanée. Donc, si vous agissez et vous utilisez votre matériel trop longtemps après votre désinfection, vous avez perdu les bénéfices de la désinfection. Donc, les deux vont toujours ensemble, mais ce n'est pas nécessaire, on va dire, de passer juste après nettoyage à la désinfection. Par contre, avant utilisation, il faut que le matériel ait été nettoyé et désinfecté. Cette détergence, je trouve que cette diapo, elle est pas mal pour se souvenir un petit peu de tout ce qu'il faut prendre en compte. C'est qu'on va choisir du coup nos produits de nettoyage avec tact et bon sens. Tact pour température, c'est-à-dire que vos fournisseurs de produits de nettoyage vont vous dire, il faut utiliser ce constituant à telle température. Au niveau de l'action mécanique, est-ce que c'est, on va dire, de la recirculation, du frottage manuel, etc. La concentration et le temps de contact. Si un des paramètres vient à changer parce que vous n'avez pas la possibilité, par exemple, d'atteindre une température de 80 degrés par rapport à l'utilisation, par exemple, de produits de détergence à base de soude, vous pouvez très bien vous dire, si je suis qu'à 70, alors je vais augmenter peut-être la concentration et le temps de contact. Donc il y a plusieurs équivalences en fait du tact, et ce tact, il faut le choisir avec bon sens. C'est-à-dire que ça va dépendre de la souillure que vous souhaitez éliminer. Un détergent alcalin, plutôt pour des souillures organiques, à base de, on va dire, matière organique. Un détergent plutôt acide, pour tout ce qui va être tartre. La qualité de l'eau qui va être importante. Donc la qualité de l'eau peut être traitée pour le nettoyage. Après, il faut s'assurer, on va dire, qu'elle reste potable. Et puis, au niveau du nettoyage, est-ce que vous avez des systèmes de CIP ou de nettoyage en place, ou est-ce que, du coup, c'est plutôt plus manuel? Et le support, quel type de matériaux vous avez pour le support? Donc, on peut obtenir une même efficacité avec des paramètres de nettoyage différents. Après, c'est chacun à choisir en fonction de ce qu'il est possible à faire dans la brasserie. Mais il faut utiliser les produits pour qu'ils soient efficaces. Donc après le socle, qui était du coup les bonnes pratiques d'hygiène, on monte au niveau numéro 2, qui est l'HACCP. Donc HACCP pour Hazard, critical, analysis critical control point. Donc c'est une analyse des dangers en fait, hein, pour observer quels sont les points critiques dans la brasserie pour les maîtriser. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces risques alimentaires sont pour plusieurs types de dangers, les dangers dont je vous ai parlé tout à l'heure, microbiologiques, physiques, chimiques, allergènes. Et l'idée, c'est d'avoir un système simple et logique, c'est-à-dire de ne pas mettre en place une usine à gaz juste parce qu'on nous a dit qu'il faut mettre en place la HACCP. Ça peut rester relativement simple et très concis si on a bien compris que l'idée, c'est faire de la qualité pour utiliser la qualité dans le sens à ce qu'elles servent, mais pas faire de la qualité pour dire qu'on fait de la qualité. Et cette méthode HACCP, elle est constituée de 12 étapes. Donc 12 étapes qui sont réparties en deux points. 5 étapes préliminaires relativement, on va dire, faciles à mettre en œuvre. Et 7 principes d'analyse à respecter qui sont issus là, de la réglementation du Codex Alimentarius. Donc on va regarder ces 12 étapes. Normalement, si vous récupérez le support, vous aurez, on va dire, la plupart des éléments, on va dire, qui sont déjà ficelés, puisque j'ai essayé de faire avec un exemple pour que ce soit vraiment parlant et que ce soit pas juste une succession des 12 étapes. Alors la constitution de l'équipe. Donc la constitution de l'équipe, c'est déjà décidé dans la brasserie qui va faire partie de cette équipe HACCP. L'idée, c'est de regrouper potentiellement plusieurs services, la production, des personnes dans les bureaux potentiellement s'il y en a. Et au niveau de la production, ça peut être le gérant, un brasseur, un assistant brasseur, un apprenti. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait plusieurs avis et plusieurs yeux qui soient, on va dire, tournés vers la fabrication de la bière pour avoir quelque chose de pluridisciplinaire. Donc ça reste relativement facile. Deuxième étape, il va falloir décrire le produit. Donc pour chaque produit fabriqué, l'idée c'est de décrire de façon quand même assez précise quel est le nom du produit. Donc ça normalement, je veux dire, vous le savez tous puisque vous avez décidé de donner un nom à vos bières. La liste des ingrédients, qui apparaît aussi sur l'étiquetage, les caractéristiques physico-chimiques sans forcément aller dans un détail, on va dire, analytique qui vous demanderait de faire des analyses en laboratoire, mais au moins avoir une idée du taux d'alcool et du pH cible. Le type de conditionnement, donc là par exemple je suis sur de la bouteille 75 centilitres, la date de durabilité minimum et les conditions de conservation. Déjà quand on fait ça, on a déjà répondu au deuxième objectif, à la deuxième étape qui est de décrire le produit. Et ensuite, il va falloir expliquer pour quelle utilisation est prévu ce produit. Alors, est-ce que c'est un produit qu'on peut consommer en l'état ou est-ce que du coup, il faut, si c'est un autre produit alimentaire, réaliser une cuisson avant de le consommer? Bon, là, ça ne sera pas notre problématique puisque nous, on va consommer, par exemple, cette fameuse bière, la Paulinoise, entre 6 et 8 degrés. Où est-ce que le produit sera vendu? Donc ça, vous le savez aussi de par, les différentes destinations que vous avez choisies. Les consommateurs cibles et les personnes qui sont sensibles au produit, donc pour lesquelles on est bien au courant qu'ils ne sont pas censés consommer ce produit-là. Et une fois qu'on a fait ces trois étapes qui sont quand même assez théoriques, on va partir sur le procédé de fabrication. Donc le procédé de fabrication, il se doit d'être complet, c'est-à-dire que chacune des étapes du process doit apparaître. Alors là, je vous ai mis un process type qu'on utilise chez nous à l'ENIL. Et une fois que ce process, avec chaque opération unitaire, a été, montée, finalement, dans la partie plus théorique, on va s'assurer que tous les paramètres sont bien respectés. Donc, il va y avoir les différents paramètres de température, de pH à respecter. Il peut y avoir des temps, c'est-à-dire, par exemple, là, pour l'ébullition, on va rester pendant une heure à plus de 100 degrés, avec un pH début d'ébullition à 5,2. Et donc, il doit être le plus précis possible pour chaque produit qui sont fabriqués. Donc, si, on a différentes bières et que les différents paliers au niveau de l'empattage et du brassage viennent à différer, on va inscrire la réalité de chacun de ces produits. Et l'idée après, c'est d'aller sur place avec l'ensemble de l'équipe HACCP et d'aller vérifier si ce qui était prévu, c'est bien comme ça que ça se déroule sur le terrain. Parce que des fois, on se rend bien compte que petit à petit, il y a des habitudes qui prennent le dessus et puis on dérive par rapport à ce qui était prévu à l'initial. À partir de ce moment-là, on a fait les 5 premières étapes et c'est là où on va devoir attaquer un peu plus la HACCP et donc l'analyse des points critiques. Et on va passer sur les principes d'analyse. Donc les principes d'analyse, il y en a 7. Donc le premier principe, c'est l'analyse des dangers et l'évaluation des risques. Donc, d'où le fait que je vous avais rappelé dangers et risques. Et l'évaluation de ces dangers et de ces risques va nous permettre de déterminer les différents CCP, donc les différents points critiques, donc en anglais Critical Control Point, qui vont correspondre à une étape qui a été jugée critique et qui nécessite d'être surveillée en continu. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de mettre les moyens pour que cette étape soit toujours maîtrisée, et si elle ne l'est pas, le reste de la fabrication ne pourra pas avoir lieu. Alors, pour vous montrer un petit peu un exemple, pareil, j'ai pris un extrait de notre système qualité à Poligny. Donc, j'ai pas pris toutes les étapes, hein, parce que vous imaginez que le même travail a été fait pour toutes les étapes de fabrication. Mais voilà, j'ai pris le début et la fin. Donc, imaginons au niveau du concassage, quels seraient les dangers que je pourrais retrouver au niveau du concassage. Les dangers sont de trois types, on a dit. Biologique, physique ou chimique. Donc là, par exemple, au niveau du concassage, j'en ai recensé que deux. Et pour ces deux dangers, je vais regarder si c'est une histoire de contamination, de développement ou de survie. Donc par exemple, au niveau du concassage, le malt, il n'est pas stérile, donc il contient naturellement des micro-organismes, hein, quand il rentre dans la fabrication de la bière. Donc il y a bien une contamination initiale. En fonction de comment je vais conserver mon produit, il peut y avoir un développement et les micro-organismes vont survivre. Donc, à la suite de ce bilan, qu'est-ce que je vais pouvoir remettre en cause ? Je vais utiliser mon 5M, donc le 5M que je vous ai montré tout à l'heure. Et par exemple, au niveau du concassage, ça peut être une contamination par l'air et un développement de moisissure qui va avoir lieu dans ma bière. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme mesure préventive ? Respecter déjà les bonnes pratiques d'hygiène. Dans les bonnes pratiques d'hygiène, je vous ai dit, bah, par exemple, on est en milieu agricole, il y a un risque que l'air, on va dire, extérieur de la brasserie rentre dans la brasserie, bah, peut-être que je vais faire en sorte, justement, que, en plus, mon concassage se fasse dans un local clos. Et donc, je vais faire ça pour toutes les étapes de mon process, toutes celles que j'ai déterminées dans la partie précédente. Et pour certains points, je vais arriver à des points que j'aurais évalués comme étant des CCP. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour évaluer, par exemple, qu'au niveau du refroidissement, au niveau du transfert en cuve de fermentation et au niveau de la mise en bouteille, j'ai trois CCP. Le premier, contamination microbiologique par le matériel, parce que, du coup, peut-être que j'ai un problème au niveau de la désinfection de mon échangeur à plaques. Le deuxième, au niveau de mon transfert en cuve de fermentation, parce que pareil, j'ai peut-être mal stérilisé mon fermenteur. Alors nous, on stérilise à la vapeur, mais vous pourriez avoir la même chose avec du désinfectant. Qu'est-ce que je vais mettre comme mesure préventive en place ? Bah, c'est de respecter pendant le temps suffisant pour permettre la désinfection. Et puis la troisième, bah là, c'est plutôt un risque physique, c'est-à-dire si j'ai un corps étranger qui arrive soit dans ma conditionneuse ou si j'ai une casse de bouteille pendant le remplissage, bah, je vais déjà, en mesure préventive, surveiller régulièrement la qualité de mes tuyauteries et aussi, quand j'ai une bouteille qui casse, l'isoler et faire en sorte de nettoyer la machine avant de continuer le conditionnement, surtout si je ne suis pas sûre de ce qui a pu se passer. Donc là, j'aurais identifié trois CCP, mais je ne les ai pas juste identifiés parce que ça me faisait plaisir par rapport au reste du tableau que j'ai complété. Je me suis aidée pour du coup, définir ces CCP de deux documents. Et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué, l'achat CCP. C'est que je vais regarder trois choses, la gravité de la situation, la fréquence de la situation et la détectabilité. Et en fonction de chacun de ces niveaux, je vais regarder, bah, par exemple, est-ce que j'ai coté ça de 1 à 4 pour la gravité, pareil pour la fréquence, pareil pour la détectabilité. Et je vais multiplier ces trois valeurs. Donc je vais multiplier la gravité, par la valeur de gravité, par la valeur de fréquence, par la valeur de détectabilité. Et je vais obtenir ce qu'on appelle la criticité. Et une fois que j'ai la criticité, bah, pour mes paramètres, mes étapes où c'est le plus critique, je vais aller utiliser un arbre de décision. Et cet arbre de décision va me permettre de répondre à différentes questions et d'arriver à dire, est-ce que j'ai un point critique pour la maîtrise de la qualité de mon produit ou est-ce que j'en ai pas ? Donc par exemple, on vous dit, est-ce qu'il existe une ou plusieurs mesures préventives de maîtrise ? Dans le cas où il n'y en a pas, est-ce que la maîtrise à cette étape est nécessaire pour garantir la sécurité ? Si la réponse est non, ce n'est pas un CCP et je m'arrête là. Et donc du coup, même si j'avais une criticité qui paraissait élevée, mon arbre de décision m'a permis de dire que ce n'était pas un CCP. Au contraire, si on pose la question, est-ce qu'il y a plusieurs mesures préventives de maîtrise? Si la réponse est oui, on nous demande si cette étape elle est spécifiquement conçue pour éliminer la probabilité d'apparition d'un danger. Si la réponse est non, je peux continuer et dire, est-ce qu'il y a une contamination qui s'accompagne du danger qui peut survenir, ou est-ce que le danger peut augmenter jusqu'à atteindre un niveau acceptable? Si la réponse est à nouveau non, est-ce que j'ai une étape ultérieure qui permet d'éliminer le danger? Si la réponse est non, j'aurai un CCP. Donc, à partir de la criticité, des points les plus critiques, on va répondre à toutes ces questions et on va pouvoir identifier, donc là, comme je l'ai fait, les trois CCP qui étaient précédemment sur la slide précédente. Une fois qu'on a fixé les CCP, donc on les a déterminés, on va fixer le seuil critique pour chaque CCP. On va mettre en place un système de surveillance pour s'assurer qu'on maîtrise le suivi de ces CCP et, si besoin, on mettra en place des actions correctives. Et là, pour que ce soit, on va dire pareil, assez synthétique, vous voyez, je retrouve mes trois CCP, mes limites critiques, c'est-à-dire qu'il faut que je respecte des désinfections à la vapeur pendant au moins 3 minutes pour le refroidisseur et pour la cuve de fermentation. Je vais enregistrer ces données dans une fiche d'enregistrement. Donc c'est là où il va falloir mettre en place quand même une petite fiche pour montrer qu'on a bien mis en place un contrôle qui nous permet de surveiller que la stérilisation à la vapeur a bien été faite. Et si il y a un souci, la mesure corrective, ce sera de refaire la stérilisation. Les deux dernières étapes vont consister à mettre en place des procédures de vérification et à constituer un dossier qui regroupera en fait l'ensemble des documents que je vous ai présentés. La mise en place de procédures de vérification, c'est pareil, on essaye de faire ça simplement. Si vous avez une fiche de fabrication qui est correctement remplie, avec tous les éléments, ça suffira déjà pour montrer que vous avez mis en place une procédure de vérification. Si vous faites de la dégustation, et ça j'en doute pas, tout au long de la fabrication du produit et jusqu'à la DDM, ça permettra aussi d'appuyer votre système qualité, de montrer que vous mettez en place des procédures de vérification. Et puis tout ce qui va être contrôle visuel ou contrôle, on va dire, sur les produits finis, seront aussi des moyens de montrer que vous avez mis en place des procédures de vérification. Donc là, pour vous donner des exemples, c'est des fiches d'enregistrement pour de la dégustation et pour le process. Donc pour conclure sur cette thématique, l'importance de la qualité, elle est importante même si on est en microbrasserie, puisque de toute façon, au-delà, on va dire, des exigences réglementaires, il y a un enjeu économique. Quand on a des soucis sur un produit, quelle que soit, on va dire, l'entreprise concernée, ça va donner une mauvaise image du produit. Donc l'idée, c'est quand même que tout le monde donne une bonne image de la bière, chacun à son niveau. Directement pour le brasseur, ça peut l'empêcher de vendre son produit ou en tout cas l'empêcher d'avoir une clientèle fidèle. Donc ça, c'est quand même important de tenir en compte de ce qui va vous arriver personnellement, mais aussi ce qui peut être impacté sur l'ensemble de la filière. Il y a bien sûr des enjeux, un enjeu pénal si la santé du consommateur elle est mise en danger, mais j'ai envie de dire, normalement, en brasserie, ça ne devrait pas être le cas. Et puis, il y a déjà des outils qui existent, que vous pouvez retrouver. Donc, je vous en ai mis quelques-uns ici. Donc, vous avez le guide des bonnes pratiques d'hygiène que vous retrouvez en accès libre sur Internet. Nous, on avait mis en place un guide méthodologique pour la maîtrise du risque sanitaire en brasserie, particulièrement microbiologique. Et puis, vous voyez, le SNBI, en 2018, a aussi proposé un modèle pour la méthode HACCP. Donc, je pense qu'à travers tous ces documents, plus ce que je viens de vous présenter, il y a possibilité de faire quelque chose d'assez simple pour le système qualité d'une brasserie. Je vous remercie.
Merci pour ces précieuses informations. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire auprès de l'accueil pour pouvoir télécharger le PDF de cette présentation. Et puis, il nous reste un peu de temps pour des questions, si vous voulez poser des questions. Pas de questions? Si.
Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question concernant l'identification des CCP. Sur quelle base vous partez de la criticité pour aller sur le diagramme décisionnel? Parce que vous avez trois critères avec des notations. Et ce que moi j'ai l'habitude de voir, c'est un calcul global avec un seuil défini.
Oui, alors ce calcul global, du coup, de la criticité, il prend en compte les trois autres paramètres que je vous ai présentés. Et en fait, on va multiplier, si par exemple on met une gravité à 3, une détectabilité à 3, et puis le dernier élément à 3, ben, on va faire 3 fois 3 fois 3. Et puis du coup, c'est les valeurs les plus importantes qui vont donner la criticité. Et ça va permettre de hiérarchiser finalement les points les plus importants. Et c'est sur les points les plus importants qu'on va utiliser l'arbre de décision.
D'accord. Et au niveau du seuil que vous définissez, c'est l'équipage HACCP qui le détermine, ou il y a une réglementation, oui, ou le guide HACCP qui donne des indications sur ce point?
Alors, j'ai envie de dire, dans différents domaines de l'industrie agroalimentaire, il y a plus de contrôles en fait qui vont être obligatoires. Quand on parle de l'usine de transformation des viandes ou des choses comme ça, où il y a des risques pour le consommateur. Donc forcément, il va y avoir de la réglementation en plus qui va appuyer. Mais là, en brasserie, en fait, nous, on est amené à ne faire aucun contrôle. Mais pour l'instant, on n'a pas, on va dire, trop d'exigences, même s'il y a des contaminants. Il n'y a rien qui est fait pour empêcher de vendre le produit. Donc là, c'est plutôt à chaque brasserie de se fixer en fait son niveau d'exigence.
Merci.
Après, ça restera toujours un peu les mêmes endroits, les CCP. Hein. Vous allez, c'est particulièrement sur la partie bloc froid. Avant, il n'y a pas grand-chose comme risque.
D'autres questions?
Merci pour la présentation. Vous avez parlé tout à l'heure de traçabilité.
Oui.
Est-ce qu'il y a des points à tracer obligatoires en brasserie ou...
Alors ça, c'est pareil, on va revenir sur l'industrie agroalimentaire en général. C'est-à-dire que ce qu'il faut pour la traçabilité, c'est être capable pour un produit fini de retracer en fait tout son parcours. Donc tout ce qui sera enregistré, quand vous allez prendre des maltes, il faudra que dans la fiche d'enregistrement, il y ait les numéros de lot de ces maltes pour que du coup, s'il y a un souci, on puisse remonter. Donc en fait, il faut qu'il y ait tous les numéros de lot à chaque fabrication de tous les intrants dans la bière. Et normalement, avec une fiche d'enregistrement, vous pouvez quasiment tout avoir sans multiplier, on va dire, le nombre de papiers et que ça devienne une usine à gaz, quoi.
Eh bien, merci.
Merci à vous, puis n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition.
Merci.